Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Chers téléspectateurs, chers auditeurs et à nos amis qui nous suivent via les médias sociaux, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à votre émission de débat Le Grand Dialogue. Comme vous le savez, le 31 juillet, le Mali, à l'instar de nombreux pays africains, a célébré la journée panafricaine des femmes. Cette année, l'accent est mis sur un enjeu essentiel, l'accès universel à l'eau et à l'assainissement pour chaque femme, une priorité pour la vision 2063 au Mali. Comment garantir un accès durable à l'eau potable et à l'assainissement? Quelles sont les politiques mises en œuvre? Quels défis restent à relever et quel rôle peuvent jouer les collectivités, les partenaires et les communautés? Autant de questions que nous allons débattre avec nos deux invités, Madame Samake Fatoumata Traoré, une habituée de notre plateau, spécialiste en jarre. Bonsoir Madame. Une nouvelle tête que beaucoup vont découvrir ce soir sur nos antennes, c'est une première, on espère la voir plusieurs fois sur nos plateaux. Mohamedou Adamou, bonsoir, vous êtes enseignant spécialiste en environnement. Et bienvenue à notre émission de débat, Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Madame, je me tourne vers vous, la première question sera donc pour vous. Concrètement, quand on parle d'accès à l'eau, on parle forcément des femmes qui vont en chercher. Pourquoi cela?
Alors, merci beaucoup. D'abord, quand on parle d'accès à l'eau ou à l'assainissement, en général, on le dit parce que justement en Afrique, particulièrement en Afrique et dans les pays en voie de développement, c'est les femmes qui portent la charge de la recherche d'eau, mais également de l'assainissement. Donc, qui dit assainissement parle d'eau, parce que sans eau, il n'y a pas d'assainissement. On parle même du fait que sans eau, il n'y a pas de vie. Donc, c'est les femmes qui portent cette charge-là. Et c'est une charge mentale, une charge physique qui pèse principalement sur les femmes, surtout en milieu rural, où l'accès à l'eau est un parcours de combattant pour de nombreuses femmes et de filles.
Mais vous gardez la parole. Est-ce normal qu'en 2026 encore, que les femmes doivent aller chercher de l'eau pour le village à une époque où on pousse plus, on met plus davantage l'accent sur l'égalité hommes-femmes aujourd'hui?
Ce n'est pas du tout normal, mais il faut reconnaître que c'est une suite logique de la division sexuelle du travail. Parce que vous savez très bien que dans nos traditions et aussi dans tout ce que nous pouvons avoir comme valeur culturelle, c'est la femme qui est en charge des travaux domestiques. Ça pèse à titre principal sur la femme et la fille, par ricochet, parce que quand une maman travaille, sa fille ne peut pas rester en demeure. Donc, ce qui veut dire que cette division sexuelle du travail a aussi une conséquence sur la vie sociale de la fille, notamment, comme vous l'avez dit, hein, en 2026, normalement, ça ne doit pas peser uniquement sur la femme et la fille. Mais malheureusement, la réalité, elle est autre. Elle est autre dans le sens qu'aujourd'hui, une femme qui décide de ne pas se donner cette charge-là au sein d'une famille est une femme qui n'est pas bien perçue. Et c'est même considéré comme si c'était une valeur pour une femme de s'occuper des tâches domestiques, c'est-à-dire cuisine, balayage, recherche d'eau pour pouvoir, en tout cas, nourrir la famille, tout ce qui est entretien des enfants, des personnes âgées et tout. Ce n'est pas normal. Mais malheureusement, c'est la triste réalité, principalement au Mali.
Merci beaucoup, Madame Samake, pour vos mots d'introduction. Je me retourne vers votre co-débatteur, Mohamedou Adamou. Encore une fois, bonsoir et bienvenue bonsoir. Sur notre plateau. Et si je vous demandais de nous donner la couverture en eau potable en chiffres au Mali, ça donne quoi en 2026?
Merci beaucoup. En 2026, nous avons une couverture nationale d'à peu près 110%. Ça c'est global. Au niveau rural, on a moins de 30% de couverture. Et comme madame venait de le dire, l'eau est vitale. Elle est indispensable pour les végétaux, les animaux et l'être humain. Et nous sommes dans un système dans lequel la couverture devrait être équitable. Équitable, que ce soit au niveau que ce soit au niveau rural ou bien au niveau urbain, il faudrait que les populations aient accès à cette eau-là qui est indispensable à leur survie.
Est-ce que il y a une explication qui fait qu'aujourd'hui cette couverture n'est pas égale quand on se trouve dans un milieu urbain ou rural aujourd'hui?
Cela c'est un peu plus compliqué parce que cela dépend des politiques. Actuellement, il faudrait que les politiques accentuent leur programme dans le cadre de la couverture, donc dans le cadre d'une équité territoriale, permettant à chaque entité d'avoir vraiment l'accès à cette eau-là et pouvoir réduire cette, ces corvées, n'est-ce pas, que surtout le genre, la femme, n'est-ce pas, qui est la principale personne qui s'occupe, n'est-ce pas, de la fourniture de cette eau au niveau des ménages. Donc, je pense que cette eau devrait être accessible à tout le monde. Voilà.
Madame Samaké, merci beaucoup, Mamadou, pour vos mots d'introduction également. Madame Samaké, quel lien aujourd'hui existe-t-il entre l'accès à l'eau et l'autonomisation économique de la femme?
Alors, il y a un lien indéniable parce qu'on sait très bien que dans la plupart de nos villages, dans les coins les plus reculés, l'accès à l'eau est un parcours de combattant pour de nombreuses femmes et filles qui sont principalement chargées de cette corvée. Alors, le lien avec l'autonomisation de la femme, c'est d'abord le fait que cette recherche-là engloutit des millions d'heures par jour. Par des millions de femmes, voire des milliards de femmes à travers le monde. Alors, le fait de voir que cette tâche leur est dédiée fait que ces femmes-là passent beaucoup plus de temps à la corvée d'eau, à la corvée d'assainissement, ce qui limite leur temps pour des activités génératrices de revenus, par exemple. Ça limite aussi leur temps par rapport à l'éducation, c'est-à-dire aller à l'école, pouvoir apprendre. Ça limite leur temps même par rapport au fait qu'elles doivent participer aux questions liées au développement, que ce soit communautaire, que ce soit des questions de débats nationaux. Donc, les femmes ne peuvent pas avoir le temps nécessaire, justement, pour être au même pied d'égalité que les hommes, pour pouvoir débattre de cela, compte tenu de leur charge mentale et physique très, très importante dans la journée. Et alors, l'impact direct aussi, c'est la perte de revenus. Parce que quand on regarde bien, si vous passez des heures et des heures à chercher de l'eau, à faire la cuisine, à vous occuper des enfants, à faire le linge, à laver les ustensiles de cuisine, ça veut dire que pendant ce même temps-là, d'autres personnes l'utilisent pour faire autre chose, notamment trouver de l'argent et pouvoir s'en sortir. Donc, ça augmente un peu la précarité de la femme, sa dépendance économique vis-à-vis des hommes, mais aussi, ça limite leur accès, par exemple, à l'éducation, à la santé, au développement de façon générale, parce qu'il faut reconnaître que depuis 2010, l'Assemblée générale des Nations unies a considéré que l'eau et l'assainissement est un droit fondamental pour tout être humain, que vous soyez homme ou femme. Quand on parle d'eau et d'assainissement, il ne s'agit pas d'une répartition mathématique de cette tâche-là par rapport à un sexe. Alors, si aujourd'hui le Mali se retrouve dans ces conditions, comme beaucoup d'autres pays africains et même d'autres pays à travers le monde, ça veut dire simplement que nous n'avons pas évolué avec le temps. Nous ne sommes pas en phase avec le 21e siècle où la technologie aujourd'hui permet d'alléger ces tâches-là à la femme, notamment en ayant l'eau courante dans tous les ménages, par exemple, en ayant un meilleur accès à de l'eau potable qui puisse éventuellement lutter, par exemple, contre les maladies hydriques que les enfants et les femmes sont peut-être même les premières victimes, y compris toute la famille d'ailleurs. Et le fait de passer plus de temps aussi à aller chercher de l'eau, ça fait que finalement, vous n'avez pas le choix par rapport à l'eau que vous allez utiliser. Vous n'allez utiliser que ce que votre force physique vous permettra d'avoir en temps réel pour subvenir aux besoins du ménage.
Monsieur Mohamedou Adamou, je me tourne vers vous. Quand on parle souvent de manque d'eau, disons des difficultés d'accès à l'eau potable, on parle également d'un manque d'assainissement. Alors, quel peut être l'impact aujourd'hui de ce manque d'eau sur la population en général?
Les impacts négatifs sont... Il y a plusieurs impacts négatifs. La disponibilité de l'eau est carrément liée à sa salubrité, à sa qualité. La qualité, c'est la disponibilité aussi, et la disponibilité plus, n'est-ce pas, cette salubrité-là. Mm-hmm. Donc, premièrement, il faut avoir d'abord, il faut construire d'abord un système d'adduction d'eau à proximité de ces ménages-là ou de ces villes-là. Mm-hmm. La seconde, c'est de mettre en place des systèmes d'assainissement. Et aussi, c'est parce que l'eau, c'est l'eau en fond de vie. C'est-à-dire qu'une fois consommée, l'eau peut devenir des déchets. Donc, il faut trouver les moyens pour pouvoir évacuer ces déchets-là, qui est, n'est-ce pas, un certain équilibre entre la satisfaction des besoins et la protection de l'environnement. Il ne faudrait pas que l'eau soit, n'est-ce pas, un autre danger pour la population. Donc, l'eau, c'est la matière qu'on utilise pour nettoyer les aliments, pour se nettoyer, nettoyer ses habits. Donc, cette eau-là devrait être, n'est-ce pas, avoir une certaine innocuité. Donc, l'absence de tout danger capable de rendre ces populations-là malades. Donc, il faut vraiment mettre en place une vraie stratégie permettant l'accès et aussi la qualité, n'est-ce pas, sanitaire de cette eau-là pour les populations.
Merci beaucoup. Vous gardez la parole toujours, comme vous venez de le dire. L'accès à l'eau est reconnu pour être un droit fondamental. Pourtant, dans plusieurs régions du pays, les besoins restent vraiment importants. Nous allons parler cette fois-ci avec vous des politiques publiques et surtout de réalisation concernant l'accès à l'eau potable. Quelles sont aujourd'hui pour vous les principales actions engagées par l'État pour améliorer aujourd'hui cet accès? Est-ce que les politiques, les actions engagées aujourd'hui par l'État sont visibles aujourd'hui pour donner l'accès à la population à l'eau potable?
Il faut comprendre que depuis un certain temps, l'État lutte pour pouvoir maintenir cet accès d'eau, que ce soit au niveau urbain et au niveau rural. C'est des programmes qui prennent peut-être du temps, parce que c'est des programmes aussi qui ont besoin de beaucoup d'investissement. Permettre un système d'adduction comme le système de Somajep, aller jusqu'à dans les villages, ça va dépendre, n'est-ce pas, de la disponibilité des ressources qui vont être mises en contribution pour pouvoir faire les installations, n'est-ce pas, mettre en place des mécanismes permettant à ces gens-là d'avoir de l'eau. Donc, je pense que des efforts sont fournis. Nous allons voir les nouveaux programmes qui ont été élaborés, voir d'ici 2050 comment ces programmes-là vont pouvoir permettre l'accès d'eau, surtout à la femme qui est la principale vulnérable, n'est-ce pas, personne vulnérable dans dans ce jeu-là.
Alors, d'ici là, ces communautés-là vivent également, parce que dans les zones rurales du pays, nous avons également des points d'eau qui existe déjà. Quel mécanisme aujourd'hui, dans la zone rurale, les communautés, comment ces communautés qui ont déjà des points d'eau à leur disposition peuvent participer à cet effort d'accès à l'eau potable aujourd'hui, déjà avec un existant qu'il y a? Parce que vous parlez de la SOMAGEP, la Société Malienne de Gestion de l'Eau Potable, qui n'est pas dans toutes les localités du pays, surtout dans les zones rurales aujourd'hui. Comment l'existant, ces personnes qui sont dans ces zones-là, peuvent travailler avec l'existant?
Ok. Vous savez qu'en termes de sources, de ressources d'eau, nous avons à peu près dans le bassin du Niger et de la Mauritanie jusqu'au Tchad une grande réserve d'eau douce. L'eau ne manque pas dans notre zone. Toutefois, il faut pouvoir trouver les moyens pour que les populations puissent avoir accès à cette eau. Donc, dans chaque localité, vous voyez, on ne peut pas installer une ville ou un village sans qu'il y ait une ressource, n'est-ce pas, cette eau-là, disponible dans la zone. Maintenant, il faudrait mettre en place des technologies, donc des systèmes d'adduction qui sont adaptés au milieu, donc qui sont aussi de façon efficace, qui sont élaborés de façon efficace et efficiente, qui vont permettre aux populations leur utilisation pendant les 365 jours de l'année et aussi à moindre coût. Donc, chaque milieu, chaque type de ressource, chaque type de source a un type de technologie adapté pour pouvoir l'exploiter. Donc, il faut surtout miser sur les nouvelles technologies et aussi faire des installations beaucoup plus mécanisées pour permettre aux femmes d'être un peu plus libres et mener d'autres activités génératrices de revenus, comme elle avait dit. Si on continue à installer des puits à grand diamètre où il faut prendre du temps avant de tirer l'eau, ça ne va pas permettre à ces femmes-là d'avoir le temps pour s'occuper des ménages, et s'occuper des bétails et faire d'autres activités génératrices de revenus comme les maraîchages. Donc il faut pouvoir quand même donner cette opportunité, n'est-ce pas, aux populations d'exploiter ce qu'ils ont comme ressources et de façon efficace et efficiente.
Madame Samaké, je viens vers vous. Comment les collectivités territoriales peuvent participer à cet effort d'accès de l'eau potable dans ces zones rurales?
Alors, les collectivités territoriales peuvent y participer parce que les collectivités territoriales sont quand même les premières entités en lien direct, en contact direct, on va dire, avec les populations. Alors, ça fait qu'en réalité, si les collectivités devraient quand même faire quelque chose dans ce sens, c'est de pouvoir capter des financements, et pouvoir mobiliser des ressources pour que l'adduction à l'eau potable soit une réalité dans leur localité, dans leur collectivité. L'autre chose aussi, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il y ait carrément un changement de paradigme par rapport à la corvée d'eau et d'assainissement au sein des ménages. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ, c'est que la recherche de l'eau et de l'assainissement pèse à titre principal sur la femme. On considère ça comme un rôle naturel, un rôle normal, mais on ne s'imagine pas quel fardeau mental et physique ça peut faire sur la femme et sur la fille, parce qu'il y a certaines filles même qui décident de ne pas aller à l'école tout simplement parce que leur maman a tellement de travaux domestiques qu'elles ne peuvent pas se permettre d'aller à l'école. On a des filles aussi qui, quand elles partent à l'école, le fait de n'avoir pas d'eau, de n'avoir pas de latrine, ça les empêche en période de menstruer de fréquenter l'école. On a vu aussi que au niveau des collectivités, et comme vous l'avez dit précédemment, il y a beaucoup d'infrastructures obsolètes ou d'infrastructures qui sont en panne et qui devraient normalement être réparées. Mais malheureusement, ces infrastructures sont là, mais ça ne sert plus à son rôle principal de pouvoir redistribuer de l'eau. Donc, les collectivités peuvent en faire une priorité, c'est-à-dire réhabiliter les points d'eau existants, mais aussi en chercher d'autres. Et cela, ça me permet de saluer le travail colossal, ou bien on va dire l'élan de solidarité colossal qui a été fait par le président de la transition en matière d'adduction en eau potable. Je crois qu'il y a un peu plus de 500 forages. Je me dis que si, par exemple, les 30 dernières années, si on avait 500 forages tous les 5 ans, aujourd'hui, peut-être le problème serait résolu. Mais je me dis aussi que c'est une approche qui permet de soulager de façon, on va dire, ponctuelle, beaucoup de ménages qui étaient vraiment en manque d'eau, mais surtout en manque d'eau potable. Mais je pense que l'État doit adopter une politique beaucoup plus complète, beaucoup plus inclusive, qui couvre beaucoup plus de territoires, parce que la question de l'eau, ce n'est pas uniquement une question liée uniquement à la zone rurale au Mali. Vous savez, même au cœur de l'ACI 2000, Amdalaï à Bamako, il y a souvent le manque d'eau. Vous allez dans une toilette, vous essayez de tirer la chasse d'eau, il n'y a pas d'eau. Et vous avez vu, il y a, dans certains quartiers, les femmes sont obligées de veiller jusqu'à 1 heure, 2 heures pour attendre que l'eau arrive. Au XXIe siècle, cela est inacceptable. Avec toutes les technologies que le monde a aujourd'hui, nous ne devrions plus être à ce stade. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus à faire en matière de politique publique, en matière aussi de transformation des normes socio-culturelles en lien avec la gestion de l'eau. Mais il y a aussi le fait qu'on puisse utiliser les technologies existantes que d'autres pays ont testées pour que l'eau soit une réalité pour tous les ménages du Mali.
Merci beaucoup, Mouamadou. Je viens vers vous. cette fois-ci pour vous dire qu'il nous reste 10 petites minutes pour clore cette émission. Oui. Le temps pour nous d'entamer le dernier volet de cette émission qui parle de la vision 2063 du Mali qui rentre dans un cadre stratégique national de développement à long terme sur 40 ans, 2024-2063. Ce cadre-là met l'accent sur plusieurs volets, notamment la transformation économique, sociale et culturelle du pays. Et dans cette perspective Mali 2063, quel investissement aujourd'hui est nécessaire pour l'accès en grande quantité ou l'accès national à l'eau potable aujourd'hui? Si on doit le faire, on doit passer par quel genre d'investissement?
Merci beaucoup. Aujourd'hui, dans beaucoup de localités, il y a des problèmes de stress hydrique. Vu la situation climatique, les changements climatiques, on a beaucoup de difficultés à mettre en place des installations pouvant fournir, n'est-ce pas, cette ressource-là. Maintenant, ce qu'il faut, il faudrait que les gens étudient les milieux dans lesquels ils vont installer ces dispositifs-là, parce qu'il faut que ça soit adapté aux différentes localités. Et il faudrait que la technologie aussi doit suivre, n'est-ce pas, pour que vraiment les installations puissent fonctionner de façon durable. En plus des installations, il faudrait qu'il y ait une vraie politique de suivi et de surveillance. Il faut mettre en place des brigades, peut-être, qui vont s'occuper du suivi et de la surveillance des dispositifs qui sont mis en place. Il y a eu beaucoup de plans d'action, surtout dans le cadre des changements climatiques qui sont un fléau. Il y a des plans d'adaptation qui ont été élaborés et ces plans d'adaptation donnent des idées de projets, programmes permettant de s'adapter, n'est-ce pas, aux phénomènes climatiques qui peuvent provoquer ces stress hydriques-là. Et ces projets-là envisagent au niveau communal, n'est-ce pas, des types de projets adaptés aux différentes localités. Donc, les projets doivent être forcément adaptés aux localités pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, leur durabilité. Donc, il n'y a pas exactement un type d'installation pour un type de pour tout le monde. Il faudrait que ça soit adapté au milieu et qu'il y ait vraiment un suivi et une surveillance accrue pour permettre vraiment la durabilité de ces installations.
Mais alors, comment accélérer donc ce progrès-là? Parce que déjà, les idées que vous venez d'avancer, on a déjà un existant qui est là. Comment aujourd'hui accélérer ce progrès pour qu'on aille vers ce progrès-là?
Il faudrait surtout les financements. Il faudrait les financements. Il faut acquérir des financements permettant de mettre en œuvre ces projets, programmes-là. Il faudrait aussi la gouvernance. On ne peut pas mettre en place de tels systèmes sans faire une bonne gouvernance. Et une gouvernance surtout inclusive, une gouvernance dans laquelle les hommes et les femmes vont permettre, n'est-ce pas, la durabilité de ces types de projets. Donc,
merci beaucoup. Je vais vous poser deux questions à vous deux. J'ai besoin d'avoir vos regards sur ces deux questions. Quel changement observe-t-on lorsque les communautés disposent d'infrastructures adéquates, Madame Samaki?
Alors, je ne sais pas si vous avez constaté, à chaque fois qu'il y a un nouveau forage qui est installé, quand vous regardez les images à la télé, vous allez voir qu'il y a plus de femmes qui sourient. Ça, c'est un message très fort. Pourtant, l'eau ne profite pas uniquement aux femmes. Quand l'eau arrive dans le ménage, c'est toute la famille qui en bénéficie. Donc ça, c'est vraiment un signal très fort. Ça veut dire que c'est une attente de la population, une attente pressante, on va dire, de la population, d'avoir de l'eau potable, d'avoir de l'eau courante tous les jours. Un autre regard, c'est le fait que, comme tout le monde le sait, sans eau, il n'y a pas de vie. Alors, on doit mesurer vraiment à sa juste valeur ce mot-là, qui a son pesant d'or, parce que, quelque part, il ne faut pas sous-estimer le petit temps que une personne ou une famille n'a pas d'eau. Il ne faut jamais sous-estimer. Parce qu'il faut être dans cette situation pour savoir ce que ça peut causer. Alors, imaginez dans un pays où c'est devenu quelque chose de courant et de normal, ça veut dire quelque part que nous avons manqué quelque chose en matière de développement. Donc, il est temps vraiment de rattraper cela et qu'on se mette au travail, avoir une gestion, avoir déjà un diagnostic assez approfondi de notre situation, de manière à pouvoir trouver des solutions qui soient holistiques par rapport justement aux besoins des populations.
Même question pour vous, monsieur. Oui. Quels changements observe-t-on quand les communautés ont accès à des infrastructures adéquates?
C'est là une satisfaction. Comme madame l'a dit, les gens ils sont contents parce qu'il faut savoir aussi l'eau. C'est à peu près, le corps humain à peu près, contient à peu près 60 à 65% d'eau, composé de 60 à 65% d'eau. Et le sang est composé d'à peu près 80% d'eau. Donc l'eau est tellement vitale pour l'homme que quand l'homme a cette eau-là, nous tous nous savons qu'on ne peut qu'être heureux parce que c'est la vie qui est devant nous. Donc ces populations ne pourront être, comme je l'ai dit, qu'heureuses d'avoir vraiment l'accès à cette eau-là.
Alors, dernière question pour vous. La vision 2063 du Mali concernant l'accès universel à l'eau potable, est-ce possible avec tout ce que vous venez de voir, votre regard d'expert?
Je pense que c'est possible. Rien n'est impossible. Il suffit seulement de mettre les moyens. Hein? Une fois que les moyens sont là, et les moyens en termes de ressources humaines, en termes de financement, Les gens pourront vraiment atteindre ces objectifs-là. Et il faudrait aussi qu'il y ait aussi un comportement, que les populations puissent avoir des comportements décents, les permettant de pouvoir gérer c'est tout ce qui va être mis à leur disposition. Parce que ça, c'est important. Il ne faudrait pas que les choses soient réalisées et que les populations même négligent ou bien les entretiennent très mal. Donc, cette durabilité dépend aussi de ces facteurs-là.
Madame Samake, vous avez introduit cette émission, vous allez la conclure également. Quel rôle aujourd'hui pour les citoyens, les associations, les partenaires pour aller vers cet objectif Mali Vision 2063 concernant l'accès à l'eau potable?
Je pense que nous devons jouer d'abord un rôle d'acteur, mais aussi un rôle d'accompagnateur. Et rôle d'acteur dans le sens que chacun a un rôle à jouer justement par rapport non seulement à la disponibilité de cette eau-là, que ce ne soit pas uniquement un fardeau pour les femmes et les filles, mais aussi chacun, les collectivités ont un rôle dans le sens que dans leur communauté, elles doivent s'assurer que l'eau potable soit quand même une réalité. Et les partenaires au développement aussi doivent accompagner ce type de politique publique parce que ce que nous avons constaté et qui est malheureux, à chaque fois que certaines questions touchent vraiment le rôle régalien de l'État, les PTF ont de la réticence. À chaque fois que certaines situations touchent vraiment le citoyen lambda dans sa chair et son os, on estime que non, c'est l'État qui doit s'en charger. Bon, finalement, on se demande si ses partenaires techniques et financiers sont là pour le bien-être des populations ou bien pour autre chose. Donc, en ce moment-là, je pense qu'il est extrêmement important aujourd'hui de savoir que l'eau potable est un droit. C'est un droit universel qui est consacré par toutes les constitutions du monde, qui est consacré par tous les textes internationaux. C'est même la dignité humaine qui est en jeu en matière d'accès à cette denrée rare. Donc il est extrêmement important aujourd'hui que ce soit les pouvoirs publics, les collectivités, les partenaires techniques et financiers ainsi que les populations elles-mêmes de se donner la main et de mettre à bras le corps pour que justement l'eau soit un droit et reconnu par tous et toutes.
Nous arrivons donc au terme de ce grand dialogue consacré au thème de la journée panafricaine des femmes, l'accès universel à l'eau et à l'assainissement pour chaque femme, une priorité pour la vision 2063 au Mali. Nous échangeons pour montrer que l'eau est plus qu'une ressource, elle est vitale, elle est source d'éducation, de dignité et surtout d'autonomisation pour les femmes. Grand merci à nos invités, Madame Samake Fatoumata Traoré, Mohamedou Adamou, spécialiste en environnement. À la régie son et vidéo, il y avait Nouhoum Djiré et Gagné Kanté. Je suis Mariam Maïga, la modération de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois.